La gratitude à l'œuvre. L'histoire de Dave B., un des fondateurs des AA au Canada en 1944. Je crois qu'il est bon pour moi de faire ce récit de ma vie. C'est une occasion de me rappeler que je dois être reconnaissant envers Dieu et envers les alcooliques anonymes qui ont connu le mouvement avant moi. Raconter mon histoire me rappelle aussi que je pourrais retourner d'où je viens si j'oubliais les choses merveilleuses qui m'ont été données et si j'oubliais que Dieu est le guide qui me garde dans la bonne voie. En juin 1924, j'avais 16 ans et je venais d'obtenir mon diplôme de l'école secondaire de Sherbrooke, au Québec. Certains de mes amis ont suggéré que nous allions prendre une bière. Je n'avais jamais encore bu de bière ni d'alcool. Je ne sais trop pourquoi, car il y avait toujours de l'alcool à la maison. Faut dire que personne dans ma famille n'a jamais été considéré comme alcoolique. J'avais peur que mes amis ne m'aiment pas si je ne faisais pas comme eux. Je connaissais par expérience ce mystérieux état où des personnes qui semblent sûres d'elles-mêmes sont enfin rongées par la peur à l'intérieur. J'avais un complexe d'infériorité assez prononcé. Je crois que je manquais de ce que mon père avait l'habitude d'appeler de la force de caractère. Donc, par ce beau jour d'été dans une vieille auberge de Sherbrooke, je n'ai pas eu le courage de dire non. Je suis devenue un alcoolique actif dès ce premier jour, alors que l'alcool a toujours eu un effet très spécial sur moi. Il m'a transformée. Il a fait soudainement de moi ce que j'avais toujours voulu être. L'alcool est devenu mon compagnon de chaque jour. Au début, je le considérais comme un ami. Il est plus tard devenu un fardeau très lourd dont je ne pouvais plus me libérer. Il s'est révélé beaucoup plus puissant que moi, même si pendant longtemps, j'ai pu rester abstinent plusieurs fois pendant de courtes périodes. Je me disais toujours que d'une façon ou d'une autre, je finirais par me débarrasser de l'alcool. J'étais convaincue de pouvoir trouver un moyen d'arrêter de boire. Je refusais de reconnaître que l'alcool était devenu si important dans ma vie. L'alcool me procurait en effet quelque chose que je ne voulais pas perdre. En 1934, j'ai connu une série de mésaventures parce que je buvais. Il m'a fallu revenir de l'Ouest du Canada parce que j'avais perdu la confiance de la banque pour laquelle je travaillais. Dans un accident de l'ascenseur, j'avais perdu tous les orteils d'un pied et subi une fracture du crâne. J'ai été hospitalisée pendant quelques mois. J'avais aussi fait une hémorragie cérébrale parce que je buvais trop, provoquant une paralysie totale d'un côté de mon corps. J'ai probablement fait ma première étape le jour où je suis entrée en ambulance à l'hôpital Western. Une infirmière de nuit m'a demandé « Monsieur B, pourquoi buvez-vous tant? Vous avez une femme merveilleuse, un petit garçon intelligent. Vous n'avez aucune raison de boire de la sorte. Pourquoi le faites-vous? » J'ai été honnête pour la première fois et j'ai dit « Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. » C'était plusieurs années avant que j'apprenne l'existence du mouvement. Vous pensez sans doute qu'à la suite de mes aventures, j'aurais dû me dire « Si l'alcool me fait tant de mal, je vais cesser de boire. » Mais j'ai trouvé mille et une raisons pour me prouver que l'alcool n'avait rien à voir avec mes malheurs. Je me disais que c'était la faute du destin, que tout le monde m'en voulait, que tout allait mal. Je pensais parfois que Dieu n'existait pas. Je me disais, si ce Dieu l'amour existe, comme ils disent, il ne me traiterait pas ainsi. Dieu n'agirait pas ainsi. Je m'apitoyais beaucoup sur mon sort à cette époque. Ma famille et mes employeurs étaient très inquiets de ma façon de boire. J'étais devenu passablement arrogant. J'avais acheté une Ford 1931 avec un héritage de ma grand-mère. Nous avons fait, ma femme et moi, un voyage à Cap Cod. Au retour, nous nous sommes arrêtés chez l'un de mes oncles au New Hampshire. Cet oncle avait pris soin de moi à la mort de ma mère et il s'inquiétait à mon sujet. Il m'a alors dit « Dave, si tu arrêtes de boire durant un an, je te donnerai la Ford Roadster neuve que je viens d'acheter. » J'aimais cette voiture et je me suis donc empressée de promettre que je ne boirais pas un verre durant une année. J'étais sincère. Pourtant, avant d'avoir atteint la frontière canadienne, j'avais recommencé à boire. J'étais impuissant devant l'alcool. J'apprenais que je ne pouvais rien faire pour me défendre contre l'alcool, même si je n'admettais pas que j'avais un problème. Le week-end de Pâques 1944, je me suis retrouvée dans une cellule de prison à Montréal. J'en étais arrivée à boire pour échapper aux horribles pensées qui m'assaillaient chaque fois que j'étais assez conscient pour me rendre compte de mon état. Je buvais pour ne pas voir ce que j'étais devenue. L'emploi que j'ai eu durant 20 ans et la nouvelle voiture faisaient depuis longtemps partie du passé. J'avais fait 3 séjours dans un hôpital psychiatrique. Dieu sait à quel point je ne voulais pas boire, et pourtant, à mon grand désespoir, je remontais toujours sur le manège infernal. Je me demandais comment finirait toute cette misère. J'étais bourré de peur. Je craignais de dire aux autres que je ressentais, de peur qu'on me pense fou. Je me sentais terriblement seule, rempli d'apitoiement et terrifié. Par-dessus tout, je souffrais d'une profonde dépression. C'est alors que je me suis souvenu d'un livre que ma sœur Jane m'avait donné, qui parlait d'ivrogne aussi désespéré que moi, qui avait trouvé une façon de cesser de boire. Dans ce livre, on disait que ces ivrognes avaient trouvé une méthode pour vivre comme les autres êtres humains, se lever le matin, aller travailler et revenir à la maison le soir. Ce livre parlait des alcooliques anonymes. J'ai décidé de communiquer avec eux. J'ai eu beaucoup de difficultés à les joindre par téléphone à New York, car les AA n'étaient pas aussi connus qu'aujourd'hui. J'ai enfin réussi à parler à une femme, Bobby, qui m'a dit ces paroles que j'espère bien ne jamais oublier. « Je suis alcoolique, nous nous sommes rétablis. Si vous le voulez, nous pouvons vous aider. » Elle m'a ensuite parlé d'elle et elle a ajouté que beaucoup d'autres ivrognes avaient appliqué cette méthode pour arrêter de boire. Ce qui m'a le plus frappé dans cette conversation est le fait que ces personnes, à 800 km de distance, se souciaient à l'issue des autres pour essayer de m'aider. Moi, j'étais remplie d'apitoiement, convaincue que personne n'était intéressé à savoir si j'étais mort ou vivant. J'ai été très surprise de recevoir un exemplaire du Big Book par la poste le lendemain. Les jours suivants, et pendant presque toute une année, j'ai reçu chaque jour de New York quelques lignes, un bout de papier où se trouvaient quelques mots de Bobby ou de Bill, ou d'autres membres du bureau central des Alcooliques Anonymes. Le 19 octobre 1944, Bobby m'écrivait « Vous semblez très sincère et dorénavant, nous voulons compter sur vous pour perpétuer le mouvement des AA où vous habitez. Je vous envoie donc certaines demandes de renseignements d'alcooliques. Nous croyons que vous êtes maintenant prêt à prendre cette responsabilité. » Il y avait dans l'envoi quelques 400 lettres auxquelles j'ai répondu dans les semaines qui ont suivi. Peu après, j'ai commencé à recevoir des réponses. Dans mon enthousiasme de débutant et ayant trouvé la réponse à mes questions, j'ai dit à Dory, ma femme, « Laisse ton emploi immédiatement. À l'année, je vais gagner notre vie et tu vas prendre la place qui te revient dans la famille. » Elle était plus intelligente que moi. Elle m'a répondu, « Non, Dave, je vais garder mon emploi pendant un an, pendant que toi, tu vas t'occuper de sauver les ivrognes. » C'est exactement ce que j'ai fait. Aujourd'hui, quand je repense à cette période de ma vie, je me dis que j'ai probablement fait toutes les erreurs possibles, mais au moins, je pensais aux autres plutôt qu'à moi. Je commençais peut-être à trouver un peu de ce qui me remplit le cœur aujourd'hui, la gratitude. Je devenais de plus en plus reconnaissant envers les gens de New York et envers ce Dieu dont ils parlaient, mais j'avais bien de la difficulté à le trouver. Pourtant, je comprenais qu'il me fallait rechercher la puissance supérieure dont on m'avait parlé. J'étais alors seule au Québec à ce moment-là. Le groupe de Toronto avait, pour sa part, commencé ses activités l'automne précédent et il y avait un membre de Windsor qui assistait à des réunions à Détroit. C'était là tout le mouvement des AA dans ce pays. Un jour, j'ai reçu une lettre d'un homme d'Halifax qui écrivait « Un de mes amis, un ivrogne, travaille à Montréal, mais il est présentement à Chicago où il a pris une cure monumentale. Quand il retournera à Montréal, j'aimerais que tu lui parles. » J'ai rencontré cet homme chez lui. Sa femme préparait le repas, leur petite fille à ses côtés. L'homme qui portait une veste de velours était confortablement assis au salon. Je n'avais pas rencontré souvent de personnes de la haute société. Immédiatement, j'ai pensé, « Qu'est-ce qui se passe ici? Cet homme n'est pas alcoolique. » Jack était un homme pratique. Il avait l'habitude de discuter sur la psychiatrie et le concept d'une puissance supérieure ne l'attirait pas beaucoup. Mais c'était cette rencontre qu'est né le mouvement des AA au Québec. Le mouvement a commencé à grandir grâce en particulier à la publicité que nous avions obtenue du journal de Gazette au printemps de 1945. Je n'oublierai jamais le jour où Mary est venue me voir. C'était la première femme qui se joignait au mouvement ici. Elle était très timide et réservée, très discrète. Elle avait entendu parler du mouvement dans deux gazettes. Pendant la première année, toutes les réunions avaient lieu chez moi. Il y avait des gens partout dans la maison. Les femmes des membres avaient pris l'habitude d'accompagner leur mari, même si nous ne leur permettions pas d'assister aux réunions fermées. Elles s'asseyaient sur le lit ou dans la cuisine et elles préparaient le café et la collation. Je crois bien qu'elles se demandaient ce qui allait nous arriver. Malgré tout, elles étaient aussi heureuses que nous. C'est dans le sol de ma maison que les deux premiers Canadiens de langue française ont appris l'existence des AA. Toutes les réunions de langue française qui existent aujourd'hui sont nées de ces premières réunions. À la fin de ma première année d'abstinence, ma femme a accepté de quitter son emploi, mais seulement après que je me serais trouvé du travail. Je me disais que cela serait facile. Je n'aurais qu'à me présenter un employeur et je pourrais ensuite faire vivre ma famille normalement. J'ai cherché du travail pendant plusieurs mois. Nous n'avions pas beaucoup d'argent et j'ai dépensé ce que nous avions à me déplacer d'un endroit à l'autre, à répondre à des annonces, à aller voir des gens. J'étais de plus en plus découragée. Un jour, un membre m'a dit, « Dave, pourquoi n'essaies-tu pas à l'usine d'avion? Je connais un gars qui pourrait t'aider. » C'est là que j'ai trouvé mon premier emploi. Il y a vraiment une puissance supérieure qui veille sur nous. L'une des choses les plus fondamentales que j'ai apprises, c'est de transmettre notre message à l'autre alcoolique. Cela signifie que je dois penser aux autres plus qu'à moi-même. Le plus important est peut-être de pratiquer ces principes dans tous les domaines de ma vie. À mes yeux, voilà ce que représente l'Association des alcooliques anonymes. Je n'ai jamais oublié cette phrase que j'avais lue dans le livre « Les alcooliques anonymes » que j'avais reçu de Bobby. Abandonnez-vous à Dieu comme vous le concevez. Admettez vos fautes envers lui et envers les humains. Nettoyez les débris de votre passé. Donnez généreusement de ce que vous avez trouvé et suivez-nous. C'est très simple, ce n'est pas toujours facile, mais cela peut se faire. Je sais qu'il n'y a pas de garantie dans le mouvement des AA, mais je sais aussi qu'à l'avenir, je n'ai pas besoin de boire. Je veux garder cette vie de paix, de sérénité et de tranquillité que j'ai trouvée. J'ai retrouvé le foyer que j'avais quitté et la femme que j'ai épousée alors qu'elle était encore si jeune. Nous avons deux autres enfants qui trouvent que leur papa est un homme vraiment important. J'ai tous ces merveilleux bienfaits, des aides qui signifient plus pour moi que tout au monde. Je garderai tout cela et je n'aurai pas besoin de boire si je me rappelle une chose toute simple, garder ma main dans la main de Dieu.